En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Maman ours est endormi, les ours sont dans ses bas.
RTL.
Papa ours, il est sorti chercher de la vodka.
J'ai vendu la peau de l'ours, ma mère, elle ne valait pas bien lourd.
Dans notre village autrefois, un ours énorme.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'ours inspire Charles Trenet, Sylvestre et Steve Waring. Espèce d'ours, c'est le titre d'une exposition qui vient de démarrer au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. L'occasion pour nous de se glisser sans danger dans leur tanière avec Géraldine Véron, la commissaire scientifique de cette exposition. Bienvenue sur RTL, puisqu'on s'est glissé dans la tanière d'un ours, en l'occurrence d'une maman ours. On va assister à un grand événement. La naissance des petits. Combien de bébés un ours peut-il mettre au monde ?
Alors, la plupart des espèces d'ours ont en général deux petits, parfois un, parfois trois, parfois plus, mais dire que la plupart ont deux petits.
Parce qu'ils ne peuvent pas en avoir plus, c'est ça ?
Probablement. Bon, déjà, c'est comme beaucoup de gros animaux, ils ont relativement peu de petits. Hein. C'est des animaux qui vivent assez longtemps, qui sont assez gros, qui ont peu de petits, contrairement aux animaux tout petits, qui vivent moins longtemps et qui ont beaucoup de petits. C'est une stratégie.
Ouais, c'est une stratégie de survie.
De alors, peuplement.
Si on était dans cette tanière, assistant à la naissance de, allez, on va dire, deux bébés ours, qu'est-ce qui nous surprendrait en premier ? Leur taille ?
Leur taille, évidemment, et puis leur aspect, parce qu'en fait, ils sont vraiment très, très, très petits. Ils pèsent quelques centaines de grammes pour des animaux qui font plusieurs centaines de kilos pour la plupart. C'est vraiment extrêmement petit et c'est même vraiment une caractéristique spécifique aux ours. Et c'est le mammifère chez lequel il y a le plus de différence entre le poids du nouveau-né et le poids de l'adulte. Il y a à peu près 1000 fois le poids, ce qui est énorme. Et on ne voit pas ça ailleurs. On voit ça chez les mammifères marsupiaux, qui eux, donnent leurs petits, qui vont se développer dans une poche.
Vous nous rappelez ce que c'est ?
Alors, comme les kangourous, par exemple, c'est-à-dire que le petit va naître effectivement tout petit aussi. Il va aller rejoindre la poche de la mère chez les kangourous, c'est connu, et après il se développe. Mais chez les mammifères comme nous, ou comme les chats, les chiens ou d'autres, on a un placenta, le petit se développe longuement dans le placenta et en général naît avec une certaine taille.
Mais longuement, c'est combien de mois ?
Alors, chez les ours, c'est un peu particulier. Aussi, autre particularité, c'est-à-dire qu'ils ont une gestation qui, selon les espèces, on ne sait pas toujours trop d'ailleurs, mais enfin, on va dire 7, 8, 9 mois. Sauf qu'en fait, le développement ne dure pas ce temps-là. Il y a un moment où le mâle et la femelle se rencontrent, se reproduisent, et l'œuf se forme, mais il va rester en flottement dans l'utérus, il ne va pas s'implanter.
Comme s'ils s'arrêtaient de grandir.
Ils s'arrêtent de se
quoi.
Développer, oui. Tout à fait.
Et ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois
Voilà, ils vont en général, chez les ours bruns par exemple, ça va, la reproduction elle est au printemps, et c'est seulement à l'automne, une fois que la mère est rentrée dans sa tanière pour démarrer son hibernation, c'est seulement à ce moment-là que le développement vrai va se passer, et le développement après, il est effectivement le développement réel est très court, moins de 2 mois, ce qui est très peu par rapport à un animal de cette taille. Souvent c'est un peu lié à la taille.
Et il y a un lien avec l'hibernation, c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pendant l'hibernation que la partie importante de la gestation se passe pour les ours ?
Alors, on pense qu'il y a plusieurs facteurs pour le fait que ce soit décalé comme ça. C'est effectivement pour que, finalement, les oursons développés vont sortir au bon moment où ils pourront, il fera moins froid, ils trouveront de la nourriture. Et le fait aussi d'avoir cette gestation relativement courte et ce bébé pas très développé quand il naît, c'est aussi probablement une question d'énergie, d'économie d'énergie, on va dire, d'une certaine manière pour la mère et surtout d'économie des déchets. C'est-à-dire que si elle a le bébé dans son ventre, elle va falloir le nourrir, mais il va falloir aussi s'occuper des déchets qu'il produit. Et elle-même, en hibernation, ne produit plus de déchets du tout. Alors si elle produit du lait, elle utilise sa graisse qu'elle a pris en réserve avant l'automne. Et elle va nourrir son petit avec ce lait qui va puiser effectivement dans ses réserves. Mais elle n'a pas de recyclage de cette matière à faire. Donc c'est probablement une espèce de compromis entre ce qui est le plus intéressant pour pouvoir supporter l'hibernation et avoir un petit qui puisse quand même se développer correctement. Et à l'abri de la tanière, un tout petit, sans défense, c'est pas très grave.
Oui,
On n'ira pas le dénicher.
Exactement. Géraldine Véron, quand on parle des ours, on pense ours brun, ours polaire, ours blanc. Il y a beaucoup d'autres espèces.
Alors, il y a 8 espèces à l'heure actuelle d'ours, y compris le grand panda. Les gens ne savent pas forcément que c'est un ours. C'est vrai qu'il a une allure d'ours, mais il a un statut un peu particulier. Mmh. Et il y a un certain nombre d'espèces aussi, peut-être moins connues, qui sont des espèces qui vivent dans les forêts tropicales, comme l'ours malais ou l'ours à lunettes. Et ces animaux-là sont un petit peu moins connus, je pense.
On les présentera en détail tout à l'heure.
On les trouve sur tous les continents ?
Alors, pas tout à fait. On trouve des ours sur presque tous les continents, mais il n'y en a pas à l'heure actuelle en Afrique, par exemple, ce qui est assez surprenant, puisque la plupart des grands groupes de mammifères sont présentés en Afrique. Alors, à l'exception de l'ours brun, qui a été un petit peu présent en Afrique du Nord, mais qui a disparu. Et on ne les trouve pas en Australie, mais ça, comme la plupart des mammifères placentaires, à part ceux qui ont été introduits, ne sont pas en Australie.
Quel est le cadre de vie de tous ces ours ? Est-ce qu'ils ont un décor similaire ? Il faut un peu de montagne, un peu d'endroit pour se cacher ? Ça ressemble à quoi, le décor de vie des ours ?
Oui, la plupart des ours vivent plutôt en montagne, plutôt en forêt, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a un peu des exceptions. Il y a des ours qui ont des milieux plus particuliers. Bon, il y a l'ours polaire, évidemment, qui lui n'est pas en montagne ni en forêt. Mais on pense que c'est un groupe qui, d'ailleurs, est certainement à l'origine, était plutôt forestier, des régions plutôt nordiques. Et ils ont un peu gardé trace de ça en étant la plupart du temps en forêt, pour la plupart d'entre eux.
Et ils ne mangent pas la même chose, évidemment, puisque le panda et l'ours polaire, par définition, ils n'ont pas la même alimentation.
Voilà, alors il y a, on va dire, les ours, quand on regarde de façon générale, sont plutôt omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent un peu de tout. Mais il y a des ours très spécialisés. Donc il y a l'ours polaire qui est très connu, avec effectivement une alimentation qui est très carnivore. Hein. Il s'attaque aux phoques, parfois à d'autres animaux, mais principalement aux phoques. Et le grand panda, qui lui est totalement végétarien ou pratiquement totalement végétarien et qui se nourrit de bambou, ce qui lui pose pas mal de problèmes parce que c'est pas très nutritif.
Limite vegan,
pas très nutritif. Du coup, il est obligé de passer beaucoup de temps à manger. Donc, faut prévenir les véganes, ça peut être difficile. Ouais. Beaucoup de temps à manger, un tube digestif qui est quand même pas complètement adapté à ça. Donc, c'est un peu particulier. Mais il y a aussi d'autres ours, un autre ours notamment qui est très spécialisé, c'est l'ours lipu qui se trouve dans la région indienne et qui est un aspirateur à termites, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour aller dans les termitières
avec une grosse lèvre.
Voilà, il a des grosses lèvres, une très longue langue, il lui manque des incisives en haut, un museau allongé, et il va se nourrir de termites et de fourmis.
Et le miel ? Le miel et l'ours, c'est une légende ou ils aiment vraiment le miel ?
Non, ils aiment, je pense, le miel sûrement, mais c'est pas comme Winnie l'ourson qu'on voit. Je pense qu'ils vont surtout chercher de l'énergie, mais probablement aussi manger les larves qu'on va trouver dans les rayons.
C'est plus les larves que
c'est
le miel.
C'est pour la viande.
Probablement les deux. Probablement les deux.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y avait l'ours de Jean-Jacques Haneau et aujourd'hui il y a l'exposition Espèces d'ours qui vient d'ouvrir ses portes au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. La curiosité pour nous de découvrir ce monde des ours, on en apprend évidemment chaque décennie de plus en plus sur cette espèce. Nous sommes avec la biologiste Géraldine Véron, spécialiste des carnivores et commissaire scientifique de l'exposition. L'ours qui a toujours fasciné les hommes, on retrouve d'ailleurs sa trace dans les grottes préhistoriques. Comment il est représenté ? Comment il était représenté ?
Alors, il y a finalement assez peu de représentations d'ours. On pense peut-être à l'ours des cavernes, et donc on imagine les hommes préhistoriques face à ces animaux. Et en fait, il y a relativement peu de représentations, il y en a, mais beaucoup moins que plein d'autres espèces qu'on voit dans les grottes. Une des plus anciennes, je crois que c'est une représentation de la grotte Chauvet. Et on ne sait pas très bien si l'animal était fréquemment chassé, mangé. On sait, il y a des restes, on trouve des traces d'os sur lesquelles il y a des traces de coupures, donc probablement pour arracher la viande, mais ça peut être peut-être qu'ils utilisaient principalement la peau, on ne sait pas vraiment.
Mais sur la manière dont il est représenté, on voit déjà cet ours qu'on connaît nous.
Alors oui, on voit des ours, oui tout à fait, on voit des ours qu'on connaît nous. Alors il avait probablement une valeur un peu totémique, on ne sait pas trop, mais on pense qu'il y avait quelque chose déjà dès les premiers contacts entre les hommes et les ours.
Parce que Néandertal et Sapiens ont cohabité avec les ours, c'était plutôt quoi, pacifique ou violent, est-ce qu'on sait ça?
On ne sait pas trop, on sait qu'effectivement il y avait ces chasses, puisqu'on a retrouvé des restes qui apparemment avaient des traces de couteaux. On retrouve des restes dans lesquels il y a des pointes de flèches, donc on se doute bien, mais est-ce que c'était pour se défendre? Ou pour les manger, ou pour se nourrir, ou pour la peau, ou pour plein d'autres raisons. C'est relativement peu de choses.
Alors si on avance un petit peu dans le temps, Géraldine Véron, pendant l'Antiquité, l'ours, il est associé, c'est un animal important qui est associé à quoi, aux hommes qui dominent?
Oui, alors il a plusieurs facettes, on va dire, mais il a une image de puissance, évidemment, mais aussi une signification un peu céleste, un peu de passage vers un autre monde. Et puis aussi la sensation probablement qui a dû commencer très très tôt de ressemblance, c'est-à-dire que
parce que cette capacité à se dresser,
il est comme nous plantigrade, il pose ses pieds bien à plat par terre et il se dresse. Quand on voit une mère ours avec ses oursons, elle les allait assis en les tenant, en général elle en a souvent deux, donc elle les tient comme ça et vraiment on a l'impression d'une femme en train d'allaiter. C'est vraiment cette image-là probablement était de tout temps quelque chose de qui avait une signification, et donc on retrouve dans plein de civilisations des rites, des rituels, des fêtes populaires, enfin de tout temps, apparemment il y a eu vraiment des traditions autour de l'ours.
Au Moyen-Âge, cet ours tombe en disgrâce, pourquoi ?
Eh bien, il change complètement de statut, probablement parce que il est plus vu comme un animal un peu représentant tous les péchés. Donc il est glouton, il est sauvage, il est féroce, il est dangereux. Et donc il y a un tournant effectivement avec le développement du christianisme dans l'image de l'ours. Et ça va avoir des conséquences évidemment sur la façon dont il sera traité. Probablement aussi que les hommes se retrouvaient plus fréquemment en face des ours parce qu'on défrichait, on avait plus de champs, on conquérait plein de milieux, et évidemment, on se retrouvait face à des ours, donc c'était peut-être pas la même chose qu'avant, et le contact n'était pas forcément toujours très favorable à l'ours. Alors ça a entraîné un changement de statut, dans le sens où, alors qu'on pouvait le retrouver autrefois sur des blasons ou comme image totémique, il se retrouve presque ridiculisé dans des cirques ou dans ces fameux montreur d'ours qui avait tendance quand même à leur donner pas une image très favorable.
Et puis il y avait les fêtes de l'ours aussi, il y en a eu un peu partout en France, en Europe, où l'ours, il y a toujours un thème récurrent de la liaison entre l'ours et la femme.
Oui, on retrouve des fêtes de l'ours partout dans le monde, en fait. Ces fêtes, en fait, elles sont souvent au printemps et on pense que c'est un peu la sortie de l'ours de sa tanière au printemps, c'est le renouveau. Les fêtes de l'ours, souvent, sont donc avec des hommes qui se
déguisent en ours.
Déguisés en ours. Alors, c'est pas forcément avec des peaux d'ours, des fois c'est avec autre chose, mais ils sont déguisés en ours. En général, ils arrivent dans les villages et courent après toutes les femmes, et on les rattrape et on les tond, on les rase pour qu'ils redeviennent, on remet de l'ordre en fait, c'est un peu ça, c'est une forme de défoulement, mais dans lequel après on remet de l'ordre effectivement de l'homme, en l'occurrence
on remet de l'homme à sa place,
et c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette dualité comme ça dans ces visions.
Géraldine Véron, aujourd'hui l'ours est en danger, quelle est l'espèce la plus menacée?
Sur les 8 espèces, 6 qui sont considérées comme vulnérables, celle qui qui vient de changer de statut et qui était un statut de menace plus extrême est c'est le grand panda, le panda géant. Et effectivement, c'est un animal pour lequel on pense qu'il resterait entre 1500 et 2000 individus dans la nature, ce qui est extrêmement peu. Son habitat est très menacé parce qu'il est dans certaines montagnes de Chine, dans les forêts de bambou, mais qui, vu l'accroissement de la population, construction de routes, les activités minières, tout un tas d'exploitations, se retrouve à avoir un habitat qui diminue, qui se réduit à peau de chagrin. Et le fait aussi que son habitat soit fragmenté, il se retrouve en petits isolats de population avec de moins en moins de contacts.
Or, c'est un animal qui se reproduit peu, c'est ça ?
Alors, en fait, c'est un animal dont on avait du mal à maîtriser la reproduction en captivité parce qu'on ne la connaissait pas bien. Oui. Maintenant, on comprend qu'en fait, ce n'est peut-être pas si catastrophique que ça.
Ah bon.
Maintenant, les Chinois savent très bien les reproduire en captivité. Mais c'est vrai que c'est un animal qui, quand même, se reproduit peu par rapport à d'autres. Ils ont souvent, dans la nature, les femelles, même si... Quand elles ont deux petits, elles n'en élèvent qu'un. Et elles se reproduisent pas tous les ans, hein, ça va être toutes les 3-4 ans. Maintenant, elle est plus chassée, et évidemment, elle est très protégée. Mais le changement climatique, pour les bambous, c'est pas forcément formidable. Et donc, ça ne le sera pas, peut-être pas non plus pour le grand panda.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
En route, nounours.
Bonne nuit, les petits. Faites de bons rêves.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je me suis assoupie quelques secondes. Ça
ah mais oui,
bien.
Bonne nuit les petits, il y a tellement de souvenirs qui reviennent. Moi j'allais me coucher quand il y avait Nounours à la télé.
J'écoutais.
Non, vous êtes beaucoup trop jeune pour ça. En tout cas, grâce à notre invitée, la biologiste Géraldine Véron, on découvre la vie des ours sur RTL. C'est à l'occasion de l'exposition Espèces d'ours qui se tient jusqu'au 19 juin prochain au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 8 espèces d'ours sur la planète. L'ours brun, l'ours blanc, le grand panda, on l'a fait. L'ours à lunettes, à quoi il ressemble?
Il a des lunettes.
C'est vrai, il a une mauvaise vue.
C'est un ours qui a pelage, voilà, des marques blanches autour des yeux. Plus
il a fait du ski, il les a pas enlevés.
Voilà,
c'est ça,
exactement.
Ça y est,
je vois que ça vous est déjà arrivé.
Une fois, oui.
Il vit où d'ailleurs, cet ours à lunettes?
Alors, c'est un ours qui vit dans les Andes tropicales, donc en Amérique du Sud. Ah, en fait, c'est un ours de région tropicale et qui n'est pas un très très gros ours, qui va faire jusqu'à peut-être 120 kg, 130 kg. Qui est assez grimpeur et qui mange beaucoup de plantes, beaucoup de fruits, de plantes. D'ailleurs, ça lui pose des problèmes parce que de temps en temps, il se fait tuer parce qu'il est allé dans les champs de maïs. Voilà, donc ça, de temps en temps,
ça ne plaît pas aux éleveurs, enfin,
ça plaît pas aux agriculteurs, oui, tout à fait. Mais c'est un ours qui est très, très végétarien, oui.
Alors l'ours à collier, c'est le pelage autour de son cou, c'est ça qui est d'une couleur différente?
En fait, il est assez sombre, hein, quasiment noir et il a en fait plutôt sur la poitrine en fait une marque en V blanche et donc effectivement qui ressemble à un collier. Et c'est vrai que ces formes-là, on appelle ça un collier chez les animaux quand il y a ces formes en V comme ça sur la poitrine.
Alors Géraldine Véron, vous êtes biologiste, ça veut dire que vous êtes allée à la rencontre de certaines de ces espèces?
Oui, tout à fait. Enfin, aller à la rencontre, c'est plutôt le hasard en général, parce que les gens, contrairement à ce que les gens imaginent, quand on va sur le terrain au fin fond des forêts tropicales, on voit relativement peu de choses.
Ah oui.
Mais on peut se faire surprendre, comme ça m'est arrivé en pleine nuit par deux ours malais. Alors c'est les plus petits des ours, mais ça reste impressionnant.
C'est-à-dire, et comment ils vous ont surpris?
Eh bien, on était nous en train, avec des collègues, en train d'étudier des espèces qu'on suit en fait, hein, avec un système de radio. Et donc de temps en temps, il faut y aller la nuit. Et donc on était assis sur un tronc d'arbre au milieu d'un chemin, et on a entendu derrière nous des pas. Et quand on s'est retourné, il y avait deux ours sur le chemin qui étaient bien embêtés parce qu'on était en plein dans leur passage, parce que les animaux, ils sont comme nous, hein. Si on peut passer sur un chemin, pourquoi aller dans les forêts? Et ils ont été obligés de nous contourner gentiment. Ils n'ont même pas levé la tête, rien. Ils étaient deux.
Un peu d'appréhension.
Je ne sais pas si c'était un mâle et une femelle ou une mère et son jeune. Ils paraissaient à peu près de la même taille. Un peu d'appréhension après coup, en fait, parce que surtout, on avait deux étudiantes malaises et elles se sont empressés de raconter ça à leur famille qui nous ont dit vous nous les ramenez, on ne veut plus qu'ils retournent en forêt, ces ours sont très dangereux. Et c'est vrai qu'ils ont des très grosses griffes, ils sont très puissants en fait, ils ne sont pas très gros mais ils sont très puissants parce qu'ils ont l'habitude d'éventrer les termitières, ils ont des griffes vraiment énormes. Ce sont des ours qui grimpent très bien, qui sont très forts, qui sont très costauds.
On les surnomme l'ours des cocotiers, c'est ça?
Voilà, alors est-ce qu'ils grimpent aux cocotiers, ça je ne sais pas, moi je ne les ai jamais vus faire, mais c'est vrai que c'est un ours qui grimpe très bien et qui va probablement chercher dans les rayons des abeilles, des larves, du miel et d'autres fruits, insectes. Enfin, c'est un ours qui mange pas mal de choses différentes, mais qui aime bien grimper aux arbres, qui parfois va y faire un nid pour dormir. Donc c'est vraiment un animal des arbres, un arboricole. Comme on dit.
Alors Géraldine Véron, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'ours lipu. Ce ne serait pas ce spécimen, l'ours lipu, un spécimen qu'on a vu par
la chorégraphie,
exemple, dans un film Disney?
Il en faut peu pour être heureux, vraiment fait peu.
Il était pas mal léché, lui.
L'ours lipu, est-ce que c'est Balou, l'ours lipu?
Oui, tout à fait, c'est Balou. Balou, c'est le seul ours qui est dans la région indienne, donc comme évidemment Mowgli, c'était en Inde.
Mais il est aussi grand que ça, parce qu'il a l'air vraiment imposant. Le Balou, on a l'impression qu'il fait 2 mètres de haut.
Il est assez gros, mais c'est pas le plus gros des ours. Mais effectivement, c'est quand même un assez gros ours.
Et donc, il se nourrit essentiellement de termites.
Termites, de fourmis, oui, tout à fait. Oui. Il va aspirer avec sa longue langue les termites dans les termitières. Oui, tout à fait.
Le plus gros des ours, tiens, pour terminer, c'est lequel?
C'est l'ours polaire. C'est vraiment beaucoup plus gros que les autres. Alors, il y a des ours bruns qui sont très, très imposants aussi, en Amérique du Nord notamment. Mais l'ours polaire est le plus gros. Il peut atteindre 800-900 kilos, c'est énorme.
Merci beaucoup. Merci. Géraldine Véron, l'exposition « Espèces d'ours » est à découvrir au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris jusqu'au 19 juin 2017. C'est un plaisir de vous avoir au micro de la curiosité. C'est vraiment la fin de la curiosité 2016. Vive la curiosité 2017 qui commence demain à 14h avec au programme...
On va vous raconter comment Walt Disney a révolutionné le dessin animé. Puis alors ça n'a rien à voir, mais bon...
Comme souvent.
Ben voilà, c'est notre côté coq à l'âne, c'est ça. On va vous raconter comment notre nez arrive à faire la différence entre les odeurs.
Après les infos, vous retrouvez Anthony Martin. Il reçoit dans son grand studio...
Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu
c'est Renaud, bien sûr, pour l'album RTL de l'année. Et il est formidable.
Quelle chance. En attendant, bon réveillon. À l'année prochaine. Attention aux excès. Salut les curieux. RTL.